La France et le Liban, deux pays qui se regardent comme une mère regarde son enfant. Et cela date de très longtemps, et on s'amuse à dire depuis les croisades, je dirais encore plus, Charlemagne même. Quand les pèlerins passaient sur cette corniche, ils se faisaient arrêter et disparaissaient. Certes, dans la mystique chrétienne, on disait qu'un pèlerin se devait d'être puni, parce que, à l'époque, on pèlerinait, pas comme aujourd'hui, à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec toutes les protections et toutes les sûretés imaginables, on pèlerinait pour la rédemption, on pèlerinait pour se faire pardonner. Et ces pèlerins disparaissaient sur les routes, parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils allaient vers le Saint-Sépulcre. Et ce Saint-Sépulcre qui va disparaître plus de deux fois. Et puis il y a eu les croisades, et nous avons vu des seigneurs de France arriver sur place. Raymond de Saint-Gilles, Ponce, et même Godefroy de Bouillon, qui était ardennais mais français par sa mère, tous prêts à devenir des rois de France, tous défendant des forteresses, mais qu'Urbain II a fini, en novembre 1095, devant la cathédrale de Clermont-Ferrand, à leur dire « Voilà, c'est le Seigneur qui veut votre bataille ». Et ils sont partis. Et ils sont restés deux siècles, s'il vous plaît, plus de huit générations, jusqu'au jour où les Lusignans vont quitter à partir de Byblos pour aller se réfugier à Chypre avec des Maronites qui les suivaient. Et preuve en est leur tombe qu'on retrouve à Paphos, des tombes dont les dates de mort sont de 1320, 1324, qu'importe. Ils ont quitté en 1296 et cette période est tellement importante qu'après, avec les Mamelouks, les quatre siècles d'empire ottoman, l'influence des Turcs jusqu'à l'arrivée de l'expédition française en 1860, jusqu'à la protection des chrétiens d'Orient par leur cardinal Lavigerie et la fondation de l'œuvre d'Orient, avec Abdelkader, ce seigneur qui a peut-être gagné une autre guerre après avoir perdu celle de l'Algérie en 1848. Il a gagné une autre guerre en protégeant les chrétiens du Liban et de Damas. Et puis après, le patriarche de génie, Massad, qui demande à notre général Bonaparte d'Hautpoule de Beaufort que finalement, ce qu'il faut pour le Liban, c'est un gouverneur indépendant et de préférence chrétien. Les Turcs accepteront, au risque d'une guerre qu'ils ne pouvaient pas assumer devant la flotte française et, s'il vous plaît, russe aussi, celle de Nicolas Ier, et il acceptera de donner au Liban un gouverneur d'origine arménienne chrétien. C'est ce qu'on appelait des Ottomans. Et cela va durer. La Première Guerre mondiale va voir l'homme malade de l'Europe, la Turquie, tomber et arriver alors la fondation du Grand Liban, avec un autre patriarche qui vient d'être béatifié à Rome, le patriarche Oeyek, cet homme qui avait la taille de Clemenceau, pas seulement par la petite taille du médecin généraliste devenu ministre et premier ministre de la Première Guerre, qui s'étonnait de voir ce barbu venir à Versailles demander la création d'un Liban, et pas n'importe lequel, un Grand Liban. Un Liban qui pouvait joindre à la montagne libanaise ancestrale et historique, millénaire, le nord et le sud et l'est, et un Liban qui a voulu parier sur la coexistence entre chrétiens, musulmans sunnites et musulmans chiites. Et c'est ainsi que le Liban, le grand Liban, va naître avec la présence d'un général catholique et pratiquant ouvertement, le général Gouraud, qui, contrairement à Allenby, devant le tombeau de Saladin, ne mettra pas son pied en disant « Réveille-toi, Saladin, les croisés sont de retour ». Il fera une prière. Et bien sûr, il y a eu la guerre de Syrie en 24. Et bien sûr, De Gaulle est revenu pour assurer à ce Liban un régime qui, en même temps qu'il s'inspirait de la Troisième République, c'est-à-dire parlementaire, il ajoutait une autre note orientale, celle d'un pacte oral national, où les présidents de la République seraient chrétiens, et de préférence maronites catholiques, il y a eu un orthodoxe, on oublie de le dire, et la communauté orthodoxe le sait et nous est reconnaissante, il y a un premier ministre sunnite et un président du conseil chiite. Et le Liban va vivre toutes les épreuves de la région, avec ce régime qui jusqu'à aujourd'hui tient debout. Il vivra la révolution nassérienne d'Égypte en 1956. Et puis après avoir subi en 1948 l'arrivée de 500 000 réfugiés, il va vivre les conséquences de cette présence terrible avec une milice à l'époque qui portait le nom de l'Organisation de la Libération de la Palestine, dirigée par un chef redoutable qui se disait palestinien, mais il était égyptien d'origine, proche du mufti de Jérusalem, le plus terrible des muftis de Jérusalem, qui a assassiné le roi jordanien d'Abdallah parce qu'il voulait appeler la Jordanie la Palestine, qui a été voir Hitler en novembre 1941 pour lui demander de se débarrasser des Juifs comme on se débarrasse d'un morceau de bois par le feu. Et Arafat arrivera au Liban pour commettre toutes les erreurs possibles et imaginables, provoquer les chrétiens, acheter des députés armés et même surarmés, des réfugiés dans leur camp, des enfants de 9-10 ans, on leur achète des kalachnikovs au lieu de manuels scolaires. Et tous les milliards de dollars qu'a reçu Arafat, c'était pour créer une armée dans l'armée, diviser l'armée libanaise, fragile elle-même, depuis 1948 et depuis la loi de l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt de guerre avec Israël, le refus d'armer cette armée douée d'officiers, ingénieurs de très haut niveau, le refus de leur donner une aviation déjà détruite, alors qu'il y avait des pilotes de Mirage d'un niveau international, et cette amputation de l'armée libanaise dont nous payons les conséquences aujourd'hui. Car devant des conflits avec une autre milice émanant de la guerre civile libanaise, et je l'appelle civile pour provoquer les autres car elle ne l'était pas, de la guerre de l'occupation libanaise, palestinienne pour commencer en 1975, syrienne pour continuer en 1976, et pour aller plus loin, syrienne jusqu'à 2005, et le relais se fera par une autre milice pro-iranienne et une autre occupation iranienne qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'on regarde cette guerre et on se demande, cette milice héritière du désordre du Sud qu'a créé la milice de Fatah palestinienne, cette milice héritière du grand complot iranien dans la région de créer des milices tout au long de l'axe qu'ils appellent chiite, comme s'il voulait ressusciter cet ancien empire du 6e siècle avant Jésus-Christ, perse, en donnant une milice qu'ils appellent les phalanges de l'Irak, en donnant une milice aux Houthis, en donnant une milice au Liban, et qui depuis 25 ans s'arme et se surarme et défie Israël. Et voici qu'arrive l'erreur après l'erreur du 7 octobre 23, quand Israël s'apprête à venger ses villages de kibbutz, voici que surgit une attitude des Houthis qui veulent absolument lancer des missiles, et ils ont été réduits au silence. Voici qu'arrive une milice libanaise qui parle d'une guerre de soutien. Et il faut savoir que les chefs à l'époque, les plus proches de cette milice, Nasrallah lui-même, qui aujourd'hui est considéré comme le martyr, a commencé par hésiter à déclencher cette guerre qu'on a appelée du soutien à Hamas en lançant des missiles sur Gaza. Le général Michel Aoun lui-même, qui a été l'allié et qui a créé une alliance assez courageuse avec le Hezbollah, qu'on lui a reproché, mais il me l'a dit personnellement, j'ai voulu protéger les chrétiens. Et y a-t-il une erreur? Peut-être certains lui auront reproché. Élu président de la République, il a demandé à ce que cette guerre ne soit pas déclenchée et que la guerre du soutien est une erreur. Et on ne l'a pas écouté. Et voici que l'Iran elle-même, des Pasdaran et des chefs Pasdaran qui, comme aujourd'hui, ont guidé cette guerre malgré le refus de leur chef d'y aller, parce qu'il était trop intelligent, Nasrallah, pour l'accepter. Il savait, il connaissait les conséquences et ce que cette guerre allait déclencher chez Israël et l'armée de Tsahal, c'est-à-dire une réponse totale que la guerre de 2006 n'a pas vue, car la guerre de 2006 était une guerre de 10 000 hommes de l'armée israélienne, dirigée par un général qui portait le nom biblique d'Adam et qui a dit cette phrase, je l'oublierai jamais, « Je ne continuerai pas cette guerre si vous ne me donnez pas 100 000 hommes, car en face de moi, je n'ai pas des miliciens, j'ai des vrais soldats et des vrais guerriers, bien entraînés. » Bien sûr, l'état-major israélien n'a pas aimé ce compliment qu'il faisait, qui n'était pas un compliment, mais une constatation stratégique. Il a été limogé, même si Limoges se trouve en France et pas en Israël. Et cette guerre fut comme une sorte de guerre de victoire pour le Hezbollah. Et sur cette guerre de victoire, il a vécu. Il a maîtrisé la région du Sud et plus tard Beyrouth en 2007. Et plus tard, le gouvernement, jusqu'à même prendre toutes les décisions et imposer les présidents qu'il veut, les ministres qu'il veut. Cela n'aurait pas pu durer si la guerre du 7 octobre déclenchée, ou l'opération, les Israéliens disent terroriste, moi je dirais asymétrique et un peu irrationnelle de la milice de Hamas contre les kibboutz, si cette guerre n'avait pas déclenché chez Israël une stratégie totale qui aujourd'hui est considérée comme celle qui veut agrandir Israël dans la région par la maîtrise des frontières. Il ne s'agit pas encore d'un empire, mais il s'agit d'une maîtrise des frontières libanaises. Une profondeur, on croyait qu'elle allait s'arrêter à 10, 15. Aujourd'hui, elle est à 30 et elle a dépassé la frontière symbolique du fleuve Litanie. En Irak, même chose, et en Syrie, même chose, où Israël, en allant des régions druses, des Souaïdat et du Golan, va vers des profondeurs aussi de maîtrise. Et l'Irak, ça commence aussi. Et puis, bien sûr, la guerre iranienne, dans laquelle notre ami Netanyahou s'est engagé seul et a emporté avec lui, comme une vague venue de New York, toute l'armée américaine et la stratégie d'un Trump qui aujourd'hui hésite à la poursuivre avec lui. D'où l'interrogation. Est-ce que cette alliance entre les Américains et Israël va continuer jusqu'à la destruction totale, un, de la milice de Hezbollah, et deux, de la puissance iranienne et son régime? Ma chronique s'arrête cela, car celui qui va me répondre à cette question, c'est celui qui vit la situation du Liban actuellement et qui va pouvoir nous répondre sur le terrain, car c'est un homme du terrain, c'est un homme de l'armée, c'est un général, et il va nous relater un peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui au Liban, envahi par Israël dans le sud, le nombre de villages détruits et une milice têtue à vouloir le martyre. Pas toute seule, mais à voir le martyr avec un Liban total. Que la musique reprenne un peu pour que mon invité puisse se préparer du haut des cèdres du Liban. Voici les préludes de Chopin qui continuent à nous guider avec le grand pianiste Eric Heitzig. Et là, je regarde mon écran et je vois le général Georges Nader avec nous. Est-ce que vous m'entendez, mon général ?
Oui, bien sûr, bonsoir.
Voilà, les auditeurs de Radio Courtoisie vous ont déjà entendu et apprécié. Vous avez été dans votre dernier commandement à la tête des forces libanaises, les forces spéciales libanaises, et je ne parle pas de toutes les batailles, un peu dont les blessures sont inscrites dans vos corps et que vous avez vécues au Liban. Vous êtes à Beyrouth, mon général, et je me
Oui,
demande.
actuellement, oui, je suis avec vous, maintenant.
Alors, je me demande comment vous vivez cette dernière bataille qui se rapproche de plus en plus du sud de Beyrouth, de la banlieue sud d'Ahyé, comme on dit au Liban, après cette occupation du sud Liban. Est-ce que vous pouvez nous raconter à un auditeur qui ne comprend pas ce qui se passe, est-ce que vraiment les villages sont détruits dans le sud? Est-ce que Beyrouth est menacée? À vous la parole.
Avant de parler de la menace de Netanyahou à la banlieue au sud de Beyrouth, je voudrais vous parler ou bien expliquer les opérations militaires israéliennes et l'occupation de la citadelle de Beaufort, qu'on appelle en arabe Chif. Chif.
Absolument.
Cette citadelle qui se bâtit sur une colline rocheuse de 700 à 750 mètres d'altitude. Et de cette citadelle, on peut bien contrôler et dominer la majorité de la région sud de Litanie, aussi bien les kibboutz de la nord, du nord d'Israël et le mont Hermon aussi. Ils peuvent contrôler de cette citadelle la majorité des ponts qui lient sur Litanie, qui lie le sud de Litanie avec le nord. Et de cette citadelle aussi, ils peuvent aider les opérations militaires terriennes, par l'armée de terre, bien sûr, pour attaquer les autres positions, les autres villages, les autres villes de la zone de nord de Litanie jusqu'à le Zahrani, le fleuve Zahrani. Donc, si vous voulez, qu'on appelle en langue militaire un clé du terrain. Cette citadelle est un clé du terrain. Les Israéliens ont occupé, il y a 48 heures, qu'ils ont occupé cette citadelle. Et maintenant, on a bien entendu Netanyahou qui a menacé le banlieue sud. Il veut attaquer le banlieue sud et Beyrouth. Bien sûr, le président Trump a été intervenu pour l'empêcher ou bien pour interdire les frappes aériennes au banlieue de Beyrouth. Je crois de ce côté-là que le président Trump veut, si vous voulez, encourager ou bien donner une faveur à l'armée, aux autorités libanaises qui ont lancé les négociations directes avec les Israéliens, bien sûr à Washington, parce que le comité militaire libanais qui a négocié la semaine prochaine avec les Israéliens en direct à Washington, ils ont insisté au cessez-le-feu. Donc, on ne peut pas négocier les Israéliens des autres problème avant de cesser le feu. Donc, je crois que le président Trump je voulais donner un cadeau aux autorités libanaises pour les encourager que vous pouvez, vous, par votre négociation et par la diplomatie libanaise et par les amitiés avec les Américains et les Occidentaux, vous pouvez imposer le cessez-le-feu et maintenant ils vont séparer les deux, si vous voulez, les deux lignes de négociation, séparer la négociation libanaise-israélienne à la négociation iranienne et américaine. Et maintenant, c'est retient, si vous voulez, les autorités libanaises peuvent retirer le papier, comme s'appelle le papier de négociation de l'Iran, et ils peuvent imposer leur autorité sur le territoire libanais. Bien sûr, c'est ça, après le cessez-le-feu, et pas avant. Parce que sous le feu, on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire des négociations, on ne peut pas parler diplomatiquement sous le feu. Il faut maintenant cesser le feu Et je crois que le président Trump, qui a lancé le cessez-le-feu hier, il veut faire ça, et il veut faire une faveur pour les autorités libanaises. On va attendre maintenant. Aujourd'hui, il y a les négociations diplomatiques et politiques entre les Libanais et les Israéliens au Pentagone. On va attendre les résultats. Si le cessez-le-feu ça sera bien respecté par les deux côtés, Hezbollah et Israël, on va voir les heures qui viennent qui peuvent nous assurer ou bien non que le cessez-le-feu aura lieu ou bien non.
Voilà, en attendant, mon général, je vais faire l'écho de toutes les questions que naïvement se posent les Français eux-mêmes. Donc, je vais essayer d'être un peu leur représentant, parce que c'est des questions qui paraissent naïves, mais qui sont un peu de bon sens. La première question que j'entends beaucoup, comment se fait-il que devant l'invasion de la terre libanaise par une armée étrangère, que l'armée libanaise qui se trouvait au sud s'est un peu dégagée et au lieu de s'affronter à cette armée, et ils me disent pourquoi elle ne résiste pas, c'est son droit de défendre la terre du Liban. Bien sûr, il y a la milice de Hezbollah, mais je sais que vous avez une réponse beaucoup plus nuancée pour savoir qu'est-ce qui retient l'armée libanaise qui est courageuse et qui a déjà fait la guerre avec Israël en 1949, mais qui est sous la loi de l'armistice, ne s'oppose pas ou ne reste pas dans les villages qui, paraît-il, et c'est à vous de nous dire, sont complètement détruits, c'est des dizaines et des dizaines de villages, on en compte jusqu'à 60, et que l'armée libanaise ait dégagé ces territoires pour laisser la guerre entre Tzahal et la milice de Hezbollah. Que s'est-il passé ?
D'accord. Cette question est logique et importante aussi en même temps. L'armée libanaise ne dispose pas les manières et les capacités de s'affronter à Israël. N'oubliez pas qu'Israël a fait une grande guerre contre trois pays arabes unis, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, en 1967. Elle a convaincu toutes ces trois armées. En 1973 aussi, contre les Syriens et les Égyptiens, l'Égypte, maintenant, il y a l'armée égyptienne compte 4 millions d'hommes. C'est égal aux habitants, au nombre des habitants du Liban. Donc, il n'est pas. Et l'Égypte a regagné son territoire occupé par Israël et la Syrie par négociation et pas par la guerre. Donc, l'armée libanaise ne possède pas les capacités et les manières pour s'affronter et empêcher l'armée israélienne d'envahir le sud du Liban. En plus, c'est la guerre faite, lancée par l'Iran, par manière de Hezbollah, parce que Hezbollah se relie à l'Iran, Hezbollah reçoit les ordres de l'Iran, Hezbollah est une organisation militaire hors de la loi, nommée par le gouvernement libanais. C'est lui qui a fait les guerres, et c'est lui qui a, si vous voulez, comme on dit en arabe, il a invité, si vous voulez, Israël à envahir le sud du Liban. Donc, si l'armée libanaise veut s'affronter à quatre divisions israéliennes blindées et les divisions des forces spéciales avec la dominante aérienne de toute de l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne, Israël peut, dans 48 heures, détruire toutes les casernes et tous les postes militaires libanais et toutes les, si vous voulez, les headquarters de tout le sérail, le palais présidentiel et toutes les, si vous voulez, les sources de pouvoir. Elles peuvent détruire tout le Liban dans quelques jours. Donc, s'affronter aux Israéliens, ça nous conduit à la chaos, à la destruction totale. Et se retourner du Sud pour négocier et pour arriver, comme l'a fait l'Égypte, pour arriver à la cesse de feu et le retir de l'armée israélienne hors du territoire libanais, c'est mieux. On n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre moyen. C'est la vérité.
Alors, la milice...
c'est la réalité.
Voilà, la milice de Hezbollah, malgré cela, connaissant toutes ces histoires, je crois que votre réponse est extrêmement claire. L'armée libanaise ne peut pas faire la guerre, ne voudrait pas, parce qu'il y a aussi la loi de l'armistice. Est-ce que la milice de Hezbollah, qui s'obstine à aller jusqu'au bout, ayant perdu leur chef historique Nasrallah assassiné, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans ma chronique, j'ai dit que Nasrallah, au début, n'était pas d'accord pour une guerre de soutien, et que le général Michel Aoun, grand stratège lui-même, a dit publiquement qu'il ne faut pas faire cette guerre. Est-ce que je me trompe ou non ? Parce que les gens croient que le général Michel Aoun était pour cette guerre, mais en fait, il était contre. Et autant non, lui donner quelque chose.
La guerre de soutien a été lancée le 8 octobre 2023. À cette date-là, Michel Aoun a quitté le pouvoir en octobre 2022. Donc, il y avait un an que Michel Aoun a quitté le pouvoir. Et donc, son opinion n'est pas, si vous voulez...
N'a pas de poids de décision,
si vous voulez.
Oui, mais elle a un poids moral, quand même, pour le Hezbollah, c'est qu'il était contre.
D'accord, oui, il était en alliance avec Hezbollah. Maintenant, il a que lui, elle a dit son courant, qu'on s'appelle le courant patriotique libre, ils ont maintenant, si vous voulez,
changer de stratégie.
Promis cette alliance. Maintenant, ils ne sont pas alliés. Mais le monsieur Nasrallah, qui a été assassiné au septembre 2024. Lui, non, c'est lui qui a lancé la guerre de soutien à Gaza.
Donc
c'est
il n'a pas écouté le général. Il n'a pas écouté le général Aoun. Moi, je m'en rappelle.
Il n'a écouté personne, ni son alliance, son vrai allié, Nabi Berri.
Oui.
Hezbollah a lancé cette guerre, la guerre de soutien à Gaza et la guerre de soutien à Iran. Sans négocier et sans avoir le d'accord de ses alliés. Elle n'a rien parlé avec, elle n'a pas pris la permission et l'approuve de Nabi Berri, de Michel Aoun et d'autres alliés. C'est lui qui a pris la décision. Mais est-ce que Hezbollah lui-même a pris cette décision ou bien c'est l'Iran qui a donné les ordres à lancer la guerre, soutien à Gaza et soutien à l'Iran? Je crois que c'est l'Iran.
Absolument.
C'est l'Iran qui a donné, parce que lui, Hassan Nasrallah, il a plusieurs fois qu'il a réclamé que nous recevons nos argent, nos armes, nos ordres de la République islamique de l'Iran. C'est lui qui a dit ça. Donc, on sait qu'en France, on dit qu'il donne, ordonne. Donc, les Iraniens donnent l'argent, donnent la technologie, donnent les armes au Hezbollah, donc c'est les Iraniens qui dominent et c'est eux qui ordonnent à Hezbollah de faire ou bien ne pas faire la guerre. Maintenant, Hezbollah, vous avez dit une phrase.
Oui.
Que vous avez lancé une phrase que Hezbollah va continuer cette guerre jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Si l'Iran donne les ordres à Hezbollah de laisser les armes, de déposer l'arme pour l'armée libanaise, il peut, il fait. Sinon, il ne fera pas. Donc, il va combattre jusqu'au bout contre les Israéliens. C'est une guerre d'existence, si vous voulez, entre Israël et Hezbollah aussi. Israël, c'est la dernière guerre que Israël va faire. Et c'est la dernière guerre que Hezbollah va faire. C'est une guerre entre deux parties, deux côtés. Et pour chacun d'eux, c'est une guerre d'existence. D'existence. Pour cela, cette guerre va contenir au bout, par les deux côtés.
Voilà, en général, une question stratégique. Comment se fait-il que la résistance de Hezbollah n'ait pas pu garder une certaine, je dirais, tension dans les villages que déjà Israël a envahis? Comment se fait-il qu'ils se retrouvent au-delà du fleuve de Litani d'un seul coup et qu'Israël rentre comme dans un fromage, comme on dit, elle détruit, et le Hezbollah était presque inexistant dans ces villages. Il se trouve maintenant, il considère donc son quartier général est dans la banlieue sud de Beyrouth. Et dans la Bekaa. Et c'est pourquoi ils veulent aller vers la capitale.
Durant la guerre de soutien à Gaza, le 2023-2024, Hezbollah a perdu et les gens, les combattants qui ont le pouvoir, qui ont l'expérience qu'il a fait soit en 2006 au Liban, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Yémen.
Assassinés, oui, tous.
Donc, oui. Et oui, Hezbollah avait des combattants professionnels, maintenant la majorité d'eux ont été tués et assassinés, ou bien dans les champs de bataille, et bien assassinés par les drones et par les attaques des avions de combat. Maintenant, les combattants de Hezbollah sont des jeunes, des petits jeunes, de 16, de 18, de 20 ans, et qui n'ont pas l'expérience, mais qui combattent avec enthousiasme, avec idéologie religieuse liée à Iran, idéologie de Walid Faqih, comme vous connaissez très bien.
Oui.
Mais ce groupe-là ne peut pas arrêter l'offensive terrienne, l'offensive des forces terrestres israéliennes. En même temps, on peut remarquer, pour être objectif, qu'au sud de l'Italie, il y a beaucoup de villages et des petites villes qui n'ont pas maintenant envahi par l'armée israélienne. Il y a des petites unités de combat de combattants de Hezbollah qui se déploient dans ces villes-là et maintenant ils combattent les forces terrestres de l'armée israélienne. Ils peuvent lancer les roquettes, les RPG, les roquettes contre anti-chars, et ils peuvent faire des pertes personnelles dans l'armée israélienne. Maintenant, dans l'armée israélienne, il y a des centaines de blessés. Il n'y a pas plus que 28 à 30 tués, mais il y a des centaines de blessés de l'armée israélienne au sud de l'Italie. Pour cela, mais on remarque maintenant, on a bien remarqué que la capacité des combattants de Hezbollah maintenant a commencé à se réduire jusqu'à moitié et plus que moitié, parce que à cause de le poste de commandement et de contrôle, il n'y a pas de poste de commandement de contrôle. Les chefs de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang ont été assassinés ou bien tués. Les jeunes chefs n'ont pas l'expérience de conduire le bataille, de la gestion de bataille, si vous voulez. Pour cela, on remarque toujours que Hezbollah, même qu'il a lancé, qu'ils peuvent lancer des roquettes et des drones contre les kibbutz israéliens au nord d'Israël, même on peut remarquer que la capacité de combat se réduit jusqu'à 40% maintenant au nord de l'Italie. On va voir les jours qui viennent, que l'armée israélienne, qu'est-ce qu'ils vont faire les Israéliens? Ils vont envahir le nord de l'Italie jusqu'à Zahrané, c'est-à-dire le banlieue de Saïda. Saïda, comme vous avez connu, c'est la capitale de la région sud. On va voir.
Et vous croyez que l'armée d'Israël est tout à fait au courant? Et ils sont tout à fait au courant de cette baisse à tel point que Netanyahou croit que pour en finir, il faut aller vers l'état-major de la banlieue du Sud. Alors, comment se présente en tout, bien qu'on puisse imaginer comment ça se passe dans le large des villages, des plaines, dans le château de Beaufort, on peut imaginer ça, mais la banlieue sud de Beyrouth, c'est un immeuble chaque 5 mètres carrés, c'est incroyable, c'est la concentration des immeubles, même s'il y a beaucoup d'habitants qui ont déjà quitté vers Biel, comme on dit, vers la mer, des endroits où ils sont. Et comment Israël peut considérer que cette bataille de Beyrouth, comme celle de 82, peut achever la milice de Hezbollah comme elle a achevé les Palestiniens à l'époque d'Arafat en 82?
Maintenant, les combattants de Hezbollah sont dans une situation psychologique très difficile. Eux, ils peuvent facilement remarquer que leur village a été détruit. Le banlieue sud, qui est le centre de commandement et d'état-major de Hezbollah, en majorité a été détruit. Les dirigeants de Hezbollah maintenant n'habitent pas dans le banlieue sud, parce qu'ils ont quitté les banlieues sud vers Beyrouth est, pardon, ouest. Et cela signifie cela bien été expliqué par les attaques aériennes à Tlatel Khayat et à Beyrouth. Là où la région n'est pas, c'est une région de Hezbollah, c'est la région en majorité sunnite qui sont contre Hezbollah. Ils ont attaqué quelques dirigeants et quelques commandants de forces de Hezbollah qui habitent dans, qui protègent, cachés dans des immeubles dans Beyrouth ouest, dans Beyrouth sunnites, si vous voulez dire, dans cette région qui ne sont pas favorables avec Hezbollah, ils sont contre Hezbollah et sa politique. Donc, les dirigeants de Hezbollah ne sont pas, et la majorité d'eux ne sont pas au banlieue sud, ils sont dispersés, soit au Mont Liban, soit dans le quartier nord, dans le quartier de Beyrouth ouest et ailleurs.
Est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous parlez de ceux qui s'opposent aux Hezbollah sunnites, etc., les chrétiens sont un peu discrets, est-ce qu'on peut dire qu'une guerre civile est probable?
Non, non. Maintenant, chaque fois que le gouvernement libanais prend une décision de désarmer Hezbollah, on parle toujours d'une guerre civile. La guerre civile sera entre deux milices, deux communautés religieuses différentes, deux parties différentes, et pas entre une armée légale qui représente un pays légal, membre de ONU, et entre une milice, une organisation milice hors de la loi, classée hors de la loi au 2 mars 2026. Donc, ce n'est pas une guerre civile. Mais la guerre civile aura lieu en cas où quand la guerre d'Israël va se déposer, bien, c'est fini. Il y a presque que 1 400 000 déplacés chiites du sud du Liban et du Beka. Ils sont maintenant abrités dans les régions sunnites et chrétiennes et druzes, à Beyrouth et ailleurs, et au Mont-Liban aussi bien au nord, chez nous. Ces gens-là ne peuvent pas revenir à leur village et ville d'origine parce qu'ils sont tous détruits totalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester là où ils sont. Donc, ils vont créer un problème social, un problème démographique, et parce que les régions qui abritent ces déplacés, ce sont des régions sunnites, chrétiennes et druzes qui sont contre la politique de Hezbollah, et la majorité des chiites qui ont été déplacés sont pro-Hezbollah. Donc, c'est la guerre. On ne peut pas dire une guerre, mais c'est un début de guerre civile qui aura lieu dans les autres régions autres que sud du Liban.
Voilà.
Oui, ça sera très dangereux. Hein.
Voilà, il y a une tension donc de ce côté. On va un peu le laisser de côté pour voir les conséquences, mais pour vous laisser préparer la prochaine intervention, mon général. Il s'agit avant tout de la stratégie américaine qui va vers la négociation avec l'Iran à condition que l'Iran renonce complètement à l'enrichissement de l'uranium et du nucléaire. Et de l'autre côté, nous avons une stratégie israélienne qui apparemment, puisque c'est Netanyahou qui la dirige, et bien que considérée comme fou par Trump, n'empêche, Israël a toujours prouvé qu'elle va jusqu'au bout de sa stratégie. Elle s'est opposée à tous les présidents américains, à Truman, à Reagan. Elle a toujours voulu faire ce qu'elle veut, tout en gardant l'appui des grands. Je vous laisse un peu réfléchir sur ces deux stratégies, comment vous les voyez. Est-ce qu'on peut arrêter Israël ou bien Netanyahou ira jusqu'au bout, comme Sharon a fait avec la milice palestinienne? Et de l'autre côté, jusqu'où l'Amérique peut traiter avec un peuple si rusé qui sait ralentir dans les négociations cet art de marchander des tapis comme l'ont les Iraniens? Et on va écouter quelques préludes, peut-être le 13 et le 14, bien révolutionnaires, en fa dièse majeur et mi bémol mineur de notre grand Chopin. Et je reviens à vous, mon général, je vous laisse boire un verre d'eau ou d'arak, qui sait.
Émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
C'était dans la Chartreuse de Valdemossa que dans les îles Majorque, bien sûr, que notre Chopin a achevé la composition de ses préludes en 1835 et 39. Bien sûr, George Sand était là. L'inspiration est là, mais chez Chopin, il y a toujours cette blessure de l'exil. Mon général, j'ai une question humaine à vous poser et en même temps, elle est stratégique. Est-ce que l'armée d'Israël, et ça m'a été posé ça par un Français qui ne comprenait pas que l'armée d'Israël puisse avoir besoin de détruire tant de villages pour chasser des miliciens, alors qu'en 82, ils ont envahi le Liban, ils n'ont pas détruit tous ces villages à cette force, parce que là, c'est une destruction totale, ils même détruisent des miliciens. Alors, comment vous comprenez cette destruction systématique? Certains parlent d'une occupation qui va durer plus que la première fois, c'était 25 ans, la 26. Comment vous comprenez cette destruction totale, vous qui êtes de l'armée et qui comprenez un peu cette situation?
Israël a réclamé plusieurs fois qu'elle va faire créer une zone tampon au sud du Liban pour bien protéger les kibboutz du nord d'Israël. Les zones tampons, par rapport à eux, c'est une zone vide. Il n'y a pas des habitants parce que les habitants sont pour Hezbollah et ils ont détruit tous les villages qu'ils ont occupés, détruits complètement. Il n'y a pas d'infrastructure, pas de, il n'y a pas de aucun immeuble, aucune maison que tout le monde, tout est détruit dans la ligne jaune qui est créée par Israël. Autre que les autres villages et villes qui ont attaqué, si vous voulez bien, contrôlés par feu, comme on dit en langue militaire, contrôlés par feu israélien, et au sud de l'Itanée, maintenant elles sont aussi détruites presque complètement. Cette destruction complète, ça revient que Israël va faire, comme j'ai dit, une zone tampon, vide des habitants chiites pro-Hezbollah, et vite que pour empêcher Hezbollah de rebâtir de nouveau et de revenir, de réorganiser de nouveau et faire une menace contre la région du nord d'Israël. C'est cela. Et maintenant, il y a tout le monde, plusieurs, qui se doutent qu'Israël va se retirer du sud. Israël va rester là pour faire une signature, un contrat de paix avec le Liban et pour que l'armée libanaise retire les armes de Hezbollah et pour éliminer totalement le danger de Hezbollah et la menace de Hezbollah contre les habitants du nord d'Israël.
Alors, il paraît que depuis le martyr du prêtre courageux, le père Rari, dans son village, que beaucoup de chrétiens refusent de quitter et que l'armée de Tsahal leur dise « Soit, vous pouvez rester, mais pas question d'accepter le retour des miliciens de Hezbollah ». Est-ce que cela met les chrétiens dans une situation d'un peuple collaborateur où ils ont la conscience tranquille que le chrétien ne veut pas vider le village, les églises et qu'on n'entende plus le son des cloches?
C'est la résistance qui donne un résultat patriotique, si vous voulez, la résistance patriotique des chrétiens du Liban, du sud du Liban, qui ont refusé de quitter leur village et ville, de Al-Mashab, mais malheureusement, ils ont bien détruit Al-Mashab parce que Hezbollah a lancé des roquettes de Al-Mashab. Maintenant, les habitants de Al-Mashab ont été quittés. Les habitants des autres villes et villages de Ormesh, de Anabel, de Amr Jayoun, tous ces villes et villages-là, leurs habitants restent dans leur village. Et cette présence chrétienne dans ces villages du sud du Liban empêche le sud du Liban d'être comme le Golan syrien. Parce que ce sont des Libanais. Les Libanais attachent leur territoire, ils ne veulent pas quitter leur village. C'est une résistance, si vous voulez, nationale, pas résistance par feu, pas résistance par la guerre, mais c'est une résistance civile, patriotique libanaise qui refuse de quitter les villages, leur village au sud du Liban, et ça empêche Israël en même temps d'occuper tous les territoires. Maintenant, quelle est la raison d'Israël d'attaquer un village chrétien, par exemple? pas de raison, il n'y a pas de Hezbollah, il n'y a pas de, des roquettes qui ont été lancées de cette zone-là. Donc, il faut bien noter que l'ambassadeur apostolique a bien empêché Israël d'attaquer les habitants de la région chrétienne, aussi bien les autorités américaines, bien noter que le G20, Marco Rubio, ils sont catholiques, ils ont bien intervenu pour empêcher Israël à forcer les habitants, à obliger les habitants du sud de Liban, les chrétiens, de quitter leur village. Donc, il y a plusieurs, éléments qui aident ces gens-là à rester dans leur village. Mais cette existence est maintenant dangereuse parce que la guerre entoure leur village, l'infrastructure a presque détruite, les routes qui emmènent à leur village est presque détruite aussi. C'est une situation très difficile. On voit quelques ONG civiles qui peuvent les aider d'acheter et d'amener des médicaments, des nourritures et de demander la permission du comité mécanisme pour aller chez eux pour les aider, aussi bien, comme j'ai dit, l'ambassadeur apostolique a bien visité ces villages-là et les a encouragés à rester chez eux. Il a pris avec lui des aides humanitaires, des aides sanitaires aussi pour les encourager. En même temps, le pape a bien contacté les autorités israéliennes pour éviter d'attaquer ces gens-là, ces villages et ces villes chrétiens au sud du Liban.
Voilà, il y a un grand paradoxe dans ce que vous racontez, mon général, et je pars du discours de Netanyahou qui, en parlant de ces chrétiens, il a dit « Vous nous accusez d'attaquer les chrétiens, vous vous trompez et vous ne savez pas que dans notre armée, il y a des chrétiens et des musulmans arabes qui se battent avec nous. » Il a révélé que tous les Libanais chiites, en grande majorité, et chrétiens qui ont quitté le Sud en 2000 pour fuir l'influence et l'occupation du Sud par le Hezbollah, qui ont vécu en Israël jusqu'à 25 ans, qui ont eu des enfants là-bas, qui ont travaillé là-bas, ont appris l'hébreu, certains ont pris même le passeport, et qui reviennent, et Netanyahu dit « mais ils se battent avec nous parce qu'ils veulent retrouver leur village, mais comme des citoyens libres ». Nous savons que Nasrallah et le Hezbollah emprisonnaient ces gens pour actes de collaboration. Ils ne les tuaient pas, mais il y avait au moins 48 mois de prison avant qu'ils ne soient libérés, accusés d'avoir été avec l'armée du Liban Sud, qui a été dirigée dernièrement par un grand général libanais, Lahad, qui n'est plus de ce monde, qui était quand même 5 étoiles, ancien de l'école de guerre de France comme vous, major de sa promotion, et avant par le commandant Haddad. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens libanais qui voient arriver des soldats de Tsahal qui ont vécu dans cette région et qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de la coopération avec Israël pour signer la paix et la Galilée, est-ce qu'ils peuvent être une garantie de non-retour de milices pro-iraniennes pour maîtriser la région comme l'a fait Arafat avec Fatah, qui était le premier, et comme l'ont fait le Hezbollah pendant 25 ans? Est-ce que ça, cet élément-là peut être un élément de paix?
Avant de répondre, je voudrais dire que la contradiction de Netanyahou qui a dit que lorsqu'il a dit que nous, on ne veut pas attaquer les chrétiens. Donc, comment le père Ra'a a été tué? Il a été tué par une drone israélienne avec 3 autres hommes de Klaya. Oui. On voit bien le soldat israélien qui a détruit le statut du Christ à Debel. On voit très bien qu'est-ce qu'ils font faire les soldats israéliens à l'église d'Hermimès. Aussi à Marjayoun, ils ont fait tout. Non, et c'est une contradiction très claire dans le discours de Netanyahou. Mais ce qui concerne les gens qui ont quitté le Liban en 2006, sont chrétiens, ils sont druzes, il y a des chiites aussi, ils ont quitté, mais je comprends très bien qu'ils ont été poussés à quitter, parce que c'était le danger de Hezbollah qui habite le sud. Et vous avez dit que Netanyahu qui a dit que ces gens-là veulent retourner chez eux. Vers quoi? Tous ces villages ont été détruits. Le chiite qui habite à Khiyam, ou bien qui vient de Khiyam, ou bien de Beit Jebel et d'autres, de Adaïs et de Farkela, de toutes les Masjid al-Salem, qui combattent maintenant avec les soldats, l'armée israélienne. Je veux retirer chez lui, qui revient vers quoi? Vers une maison détruite, vers un village qui n'a aucune maison qui n'est pas détruite, une infrastructure qui était dispersée. Donc, toujours Netanyahu, c'est un homme de l'extrême droite qui conduit son pays à faire des génocides, soit à Gaza, soit au Liban. Donc, je comprends très bien qu'il veut attaquer Hezbollah parce que Hezbollah a lancé la guerre contre lui, la guerre de soutien de Hamas et la guerre de soutien de l'Iran. Je comprends. Donc, qu'est-ce qu'il signifie ou bien qu'est-ce qui justifie qu'il y a 221 enfants ont été tués au Liban et 560 femmes qui ont été tuées au Liban? Est-ce que cet enfant est un combattant de Hezbollah? Est-ce que cette femme est une combattante de Hezbollah? Non. Donc, lui, il ne diffère pas entre les combattants et les civils qui ont trouvé eux-mêmes dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. C'est pas les habitants du Sud qui ont choisi cette guerre. C'est Hezbollah qui a imposé cette guerre à eux contre Israël. Et c'est à eux de supporter tous les résultats dangereux de cette guerre. Netanyahu ne diffère pas entre les habitants et les combattants, malheureusement. C'est l'idéologie de son armée. Mais je reviens aux gens qui ont quitté le Liban vers Israël en 2006. Oui, je comprends très bien. Ces gens ont été poussés à quitter le territoire national pour rejoindre Israël pour vivre là, c'est le danger de l'attaque de Hezbollah parce que Hezbollah a bien menacé tous les gens qui étaient avec l'armée du Liban Sud, commandée par le général Nahat. Maintenant, c'est le général Emor, il y a quelques années. Quel est le péché, si vous voulez, d'un petit enfant qui a quitté avec son père ou bien sa famille ses parents à Israël? Maintenant, il a 26 ans, ou bien 30 ans, il ne connaît pas le Liban que par la télévision. Donc, est-ce que cet homme-là, qui était un petit enfant, est-ce que cet homme-là est pro-israélien? Il était obligé à quitter le territoire libanais, il est obligé à être en Israël. C'est la loi. Je reviens toujours à la dominance de Hezbollah et ses alliés aux autorités libanaises dès le 1992 jusqu'à maintenant, il y a 34 ans que ce pays-là est dominé politiquement et militairement et par la politique étrangère par Hezbollah et ses alliés. Malheureusement, on arrive à cette solution, à ce résultat dangereux et dramatique, si vous voulez.
Et le Liban, actuellement, j'aimerais bien, après avoir décrit cette situation, mon général, la situation dans le sud Liban pour les chrétiens, la banlieue sud de Beyrouth, toujours menacée parce que Netanyahou peut prétexter le moindre drone qui tombe sur Tel Aviv, peut être pour lui l'occasion de dire à son ami Trump, je suis fou, mais je me dois de défendre mon peuple et j'envahis la banlieue sud pour détruire l'état-major. Maintenant, je voudrais me tourner vers la politique du général Joseph Aoun, que vous avez bien connu, vous êtes son aîné dans l'armée, et qui essaye courageusement déjà de déclarer la milice de Hezbollah avec le premier ministre Salam comme étant hors la loi, ce qui était inédit, de mettre les ministres pro-Hezbollah dans une situation un peu délicate, et puis la manière dont le gouvernement libanais, avec cette diaspora libanaise américaine si puissante que notre ambassadeur au Liban, Issa, est d'origine libanaise. Les amis qui entourent Trump, dont son gendre, est d'origine libanaise. Donc, nous sommes là dans une situation où l'Amérique peut se tourner vers le Liban pour renouveler une situation forte qui va commencer peut-être, et là je vous laisse réfléchir à ça, par demander à la FINUL de quitter après une présence qui date de 78 et de laisser la place à l'armée américaine. Et est-ce qu'elle sera uniquement américaine ou coordonnée avec l'israélienne? Je vous laisse réfléchir sur ces questions, surtout en commençant par la FINUL, et on va écouter le 15e prélude de Chopin, qui vous laisse un peu préparer votre question, parce que je vous fatigue, mais vous êtes passionnant, mon général, et vous êtes habitué au champ de bataille, comme Chopin l'a été en Pologne contre l'invasion de son pays. C'était le 15e prélude de Chopin, interprété par Eric Heitzig, en ré bémol majeur, une sorte de larme sur tous ceux qui meurent, les innocents de la guerre. Et là, mon général, je me tourne pour un peu comme une sorte de prière pour ce père de famille qui, sur la route de Sidon, est mort avec sa fille en l'emmenant, et encore des morts innocents de cette guerre. Alors, je me demande. Vous qui êtes dans l'armée depuis plus d'une génération, maintenant vous êtes dans une retraite émérite, comment vous avez analysé un peu l'attitude de l'Amérique et surtout Trump de dire « je ne financerai plus la finule, il est temps qu'il dégage cette finule qui, depuis 1978, quand un général français, le colonel Cuc, n'est-ce pas, après la résolution d'assurer... au Liban, la sécurité un peu créée, une zone tampon entre Israël et le Liban, désarmer les milices selon la résolution 1701, tout cela, augmenter la force de la FINU jusqu'à 15 000, jusqu'à rejoindre et renforcer l'armée libanaise, et tout cela, nous n'avons pas vu de vrais résultats, sauf les deux morts soldats français que nous plaignons aussi, bien sûr, qui furent assassinés honteusement par la milice d'Hezbollah, et voit là aujourd'hui son départ, est-il si certain que cela, ou bien, comme on entend dire que l'Union européenne est en train de préparer une relève d'une force moindre, mais européenne, pour que la France ne perd pas sa présence totale dans un Liban qui lui est aussi cher depuis les croisades, et presque dans la même région, parce que c'est l'équivalent là où était le royaume de Jérusalem. Alors, comment vous voyez un peu la politique future militaire de la finule, de celle qui la remplacera?
Bien sûr, la finule, durant l'histoire de sa présence au Liban, n'a pas pu empêcher la guerre entre Israël et les organisations palestiniennes et Hezbollah d'autre côté. Mais la finule, les finules, leur présence était, si vous voulez, de façon morale, de façon sociale. Elle a bien aidé les habitants libanais dans tous les domaines, le domaine d'agriculture, domaine industriel, domaine, elle a bien aidé les habitants, les villageois à vivre dans leur village. Elle peut assurer, si vous voulez, une sorte ou bien une sensation de sécurité chez les habitants. Toujours les habitants disent que les finus sont à côté de nous, ce sont des forces qui appartiennent à tout le monde, aux États, ONU, donc Israël ne peut pas les attaquer, ils peuvent nous protéger de façon ou bien d'autre. Mais logiquement, les FNU n'ont pu jamais arrêter la guerre ou bien empêcher Israël d'envoyer le Liban. Et en même temps, les Américains ou bien Trump, notamment Trump, le président Trump, qui veut imposer une situation de paix entre le Liban et Israël, il veut imposer, ou bien obliger, ou bien pousser, si vous voulez, le Liban et Israël à faire un contrat de cessez-le-feu, de faire une relation diplomatique entre les deux pays, même que cette guerre, cette guerre a bien encouragé la sensation contre Israël dans les pays, dans les gens du Sud. Ce qui va remplacer les FNU, parce que les FNU vont quitter au fin de cette année, ce que je crois que les Français jouent un rôle majeur dans ce domaine-là. Ils ont proposé des forces multinationales, bien européennes, qui reviennent aux lignes européennes, mais je crois que les Américains jusqu'à maintenant refusent cette proposition. Ils veulent que ils ne sont pas contre une force multinationale, mais pas notamment européenne. Ils veulent qu'ils dominent ces forces-là, soit par les Américains, soit par d'autres. Mais ils ne veulent pas laisser les Français eux-mêmes qui jouent sur le territoire libanais, comme vous avez dit, de conserver leur présence historique au Liban et intellectuelle, avec un pays qui est considéré comme une petite France lancée au Moyen-Orient. La France, je crois que c'est très difficile à réussir à créer ou bien à avoir l'approuve de l'Union européenne et des États et les ONU à accepter une présence européenne au Liban. Mais sous quel chapeau, sous quel titre? Est-ce que ce sont des forces internationales? Est-ce que ce sont légales? C'est-à-dire, la présence, si le Liban accepte, et Israël n'accepte jamais, est-ce que cette force aura lieu, ou bien elle peut être créée et faire sa mission au sud du Liban? Je crois que non. Et si Israël a refusé, et les États-Unis ont fait un veto en Conseil de sécurité internationale, est-ce qu'on peut arriver à une solution comme les Français souhaitent? C'est ça. On va faire maintenant l'envoyé spécial, M. Le Drian, envoyé spécial français au Liban, qui travaille pour retirer un accord de tous les protagonistes au Liban, de faire une force européenne, de créer une force européenne chargée de faire la paix ou bien de maintenir la paix au sud du Liban. On va voir dans les jours ou bien dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qu'il peut faire ou bien qu'est-ce qu'il pourra faire maintenant durant cette guerre-là. On va attendre la fin de cette guerre pour dire ou bien pour pour bien préciser le cadre ou bien sous quel volet ces forces internationales vont être engagées au Liban.
Ce qui est étonnant, mon général, c'est que le commandant de la FINUL, très souvent, était un Italien, et celui qui a été nommé en juin 2025 est un Italien, le général Deodato Abrania. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas entendu l'Italie intervenir auprès de la France pour défendre l'idée d'une force européenne un peu moindre en nombre d'hommes et dont la mission sera d'accompagner les... si j'ai bien compris, il y a une force américaine qui va y être et il n'y aura pas que des Israéliens et que cette région aura à se développer économiquement puisqu'il y a le gaz dans la mer et que finalement, ça sera, certains ont parlé d'une région qui portera une région de Trump quand même. L'ambassadeur ISA américain promet vraiment une reconstruction, un peu comme on parle de Gaza. Alors, il n'y a que la France qui le fait. Est-ce que le retour de l'armée libanaise est garanti à ce moment-là, dans tous les cas, que ce soit une petite force européenne ou américaine, est-ce que le retour de l'armée libanaise dans le sud, qui a été attendu longtemps, longtemps, comme vous le savez, est-ce qu'elle sera respectée?
Le retour de l'armée libanaise au sud du Liban, ou notamment au sud de l'Italie, est évident. C'est son métier, c'est son boulot. Il est obligé à se trouver au sud du Liban, bien sûr. C'est son métier, mais c'est sa mission d'être au sud du Liban, protéger tous les territoires, les frontières, sud, est, ouest, tout ça. Donc, c'est évident, l'armée libanaise va retirer à la fin de cette guerre avec lorsque Israël a retiré ses troupes, ça sera occupé déployé par les unités des forces libanaises. C'est évident, bien sûr. Même que si on on arrive à créer une force multinationale ou bien européenne ou bien américaine au sud du Liban ou bien non, l'armée libanaise est obligée, c'est sa mission, et les autorités libanaises ont, si vous voulez, ils n'ont pas d'autre choix. C'est sa mission, c'est la mission de l'armée libanaise qui va être déployée au sud du Liban et qui va protéger le territoire, tout ça, les frontières. Bien qu'on a un contrat de paix avec Israël, ou bien non, bien un simple cessez-le-feu, l'armée libanaise doit être dans son territoire national au sud du Liban et ailleurs dans tout le Liban.
Alors, puisque vous avez parlé d'ailleurs en général et que vous êtes originaire du Nord, si je comprends bien, on parle d'un danger réel qu'en cas de l'éclatement de la Syrie, il y a les Souaïdates, le Golan pour les Druzes, il y a les Alaouites, les Sunnites, la partie kurde. Beaucoup craignent que du côté du Nord, du côté de la ville de Tripoli et de toute cette région que vous connaissez mieux que personne, où vous œuvrez pour développer beaucoup de choses, beaucoup craignent que le Liban perde une partie ou que même les grandes puissances acceptent qu'une partie de ce nord aille vers la Syrie pour concilier un peu les Alaouites, les Sunnites, et qu'on se retrouve amputé du nord au moment où on cherche à sauver le sud. Que pensez-vous de cette réalité que vous connaissez sur le terrain vous-même ?
C'est une rêve israélien-syrien. Je voudrais vous revenir en 2002, en cours de mon cours à l'école de guerre à Paris. Oui. Ils m'ont demandé de bien expliquer la géopolitique du Liban et Moyen-Orient. J'ai résumé mon discours. J'ai dit, le Liban est entouré de trois voisins. Israël au sud, à l'est et au nord, c'est la Syrie, et à l'ouest, c'est la Méditerranée. Parmi ces trois voisins, on n'a qu'un seul ami, c'est la Méditerranée. Malheureusement, c'est notre géographie, c'est notre géopolitique. Mais la Syrie maintenant, il y a une situation à la Syrie qui est très critique. Il y a un homme qui était extrémiste Al-Qaïda et Daesh. Maintenant, il a mis son cravate à l'aide des Turcs. Et il a pris le pouvoir en Syrie. Il y a beaucoup des zones dangereuses ou bien des zones qui portent de conflits confessionnels, rationnels, comme les Kurdes qui sont au nord et au nord-est, les Alaouites qui sont à l'ouest, à la côte syrienne, et les Druzes qui sont au sud, à côté d'Israël. Donc, ce sont trois zones qui refusent, qui demandent une autonomie politique chez eux. Et jusqu'à maintenant, les Syriens n'ont pas bien rebâti leur armée que par les milices qui ont venu avec Ahmed Shara de la région de Idlib au nord de la Syrie. Ce sont des milices extrémistes, radicales. Il y a plusieurs comités ou bien plusieurs organisations qui ont été rejoints sous le commandement d'Ahmed Shara. De ces milices, il a fait son armée. On ne peut pas faire une armée par des milices extrémistes. D'accord, celui dans ce pays est libre de faire ce qu'il veut, mais le danger ne vient pas seulement d'Ahmed Shara. Le danger vient des organisations qui sont très extrémistes comme Daesh. Il y a une présence de Daesh à la Syrie maintenant. Ils ont menacé plusieurs fois Ahmed Shara. Ils ont tenté à le tuer. Ils n'ont pas réussi à le tuer il y a plusieurs fois. Donc, la Syrie n'est pas stable. La Syrie n'est pas stable pas actuellement et pas dans l'avenir proche. Elle ne sera pas stable. C'est le danger, les non-stabilités d'un voisin qu'on a avec lui 387 km de frontières communes au nord et à l'est. Donc, les dangers ne viennent pas de l'État comme un État, d'un pouvoir ou bien de l'armée syrienne, entre guillemets, fait par Ahmed Sharaa, mais par le désordre du pays ou bien de l'État syrien qui porte les sources de conflits dans les zones au sud, et à l'est et à l'ouest, comme on a bien cité, vous avez bien cité aussi, les sources de conflits des multiconfessions de la Syrie et le soutien de la Turquie en même temps que Israël elle a intervenu et elle a occupé presque une grande surface au Golan ou bien au Mont Hermon qui est égale à la surface occupée en 82 ou bien en 73 et annexée à Israël en 82, c'est le Golan syrien comme vous avez vous connaissez très bien. Elle a saisi une zone plus grande par superficie que le Golan. Et maintenant, elle est au banlieue du Daman. Et elle est intervenue pour protéger les Druzes à Souaïda. Donc, c'est l'instabilité de l'État syrien. De cette instabilité, on a peur d'avoir des troupes terroristes qui s'infiltrent de la Syrie vers le nord, vers le Bekaa, pour imposer des zones islamistes, des zones comme ils ont tenté durant les années 2006-2007 avec Fatah al-Islam au camp de palestinien de l'Albert du Nord, que vous connaissez très bien. Donc,
bien sûr.
Mais jusqu'à maintenant, on a confiance à l'armée libanaise qui est déployée maintenant à l'est et au nord du pays. Elle peut empêcher cette invasion si il aura lieu, ou l'infiltration des troupes terroristes. L'armée libanaise est professionnelle par ce contact avec les terroristes, par le combat. Ils ont l'expérience. Ce régiment est porté maintenant deux régiments de frontières, deux régiments d'intervention, les cinq régiments qui ont une brigade d'infanterie qui ont déployé sur les frontières Est avec la Syrie et au frontière nord. Maintenant, je ne doute pas, je suis calme, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur mais de cette situation en Syrie parce que j'ai confiance à l'armée libanaise et en même temps, j'ai confiance aux habitants du nord libanais qui ont des Libanais, viennent Libanais. N'oubliez pas que ces gens-là, de majorité, appartiennent aux communautés sunnites et qui ont combattu avec l'armée libanaise contre l'organisation de Fatah al-Islam qui est sunnite en Ahl al-Bayt.
Ah oui, tout
Donc,
à fait.
J'ai pas peur. Jusqu'à maintenant, j'ai pas peur.
Et même le Hezbollah qui a combattu avec l'armée contre eux, où il a fait sa propre bataille, mais à côté de l'armée libanaise.
Où? Mais où?
Quand ils disent qu'ils ont combattu les extrémistes de la Syrie, ils n'étaient pas présents.
Attends, mais...
Oui, je vous
ils ont combattu les forces de la Syrie pour appuyer le régime de Bachar al-Assad.
Absolument.
Et pas pour combattre
avec les Iraniens, oui. Tout à fait.
Et parce que les Iraniens ont demandé ça pour sauver le régime de Bachar al-Assad, pour bien assurer la ligne d'approvisionnement de Hezbollah au Liban à travers l'Irak et la Syrie.
Voilà.
Et pas pour pas pour aider l'armée libanaise, et pas pour aider pour combattre les extrémistes sunnites en Syrie. Voilà. N'oubliez pas que Hassan Nasrallah a bien réclamé, lorsqu'elle a fait la guerre contre le camp de Nahr al-Bared en 2007, il a dit les camps palestiniens ont des lignes rouges entre eux, qui l'entourent. C'est interdit d'accéder aux camps chrétien, au camp
Absolument.
Palestinien.
Voilà.
Et même ce discours de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, on a bien attaqué le...
Bien sûr. Voilà, mon général, merci pour toutes ces précisions précieuses. Je suis sûr que les auditeurs ont appris énormément. Nous arrivons à la fin. et je n'hésiterai pas à vous recontacter pour suivre cette situation. C'est très précieux ce que vous avez donné, et on vous remercie de tout cœur, et ça n'est pas étonnant que les derniers présidents des Libanais, les quatre depuis Chehab, sont toujours des chefs d'État de major libanaise, non pas par coup d'État, mais par nécessité de sauver le Liban. Avec la sagacité de notre armée, votre savoir, et j'espère qu'un jour, les gens sauront qui est vraiment l'armée libanaise par sa force et sa culture. Merci beaucoup, mon général. À la prochaine.
Merci à toi. Au revoir. Merci à l'audience et à tout le monde. Merci.
Au revoir.
Merci à toi.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Francophonie Heureuse dirigé par Antoine Assaf. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 2 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.